Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Félix du groupe No Money Kids, pardon. Bonjour Félix.
Salut à toi.
Merci d'avoir accepté l'invitation de freeformmusic.com. Ma première question, c'est vous vous décrivez en partie comme du rock lo-fi. Le rock lo-fi qui veut dire, si je suis juste, un rock créé avec du matériel maison à la façon d'un Beck ou de Paul McCartney, des fois qui fait des sessions très très basiques. Pour ceux et celles qui vont nous écouter, ça ne veut pas dire un son cheap, hein, c'est un son plutôt léché, mais que vous faites avec du matériel basique, on va dire, c'est ça? Non? Comment?
Alors, basique, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, le principe et tout le mouvement lo-fi ou lo-fi en fonction de la prononciation, mais c'est en gros revenir à des temps plus longs. C'est-à-dire que nous, ça nous a intéressé, ce mouvement nous a intéressé. Déjà, il y en a eu plein. Tu as cité Beck, McCartney, dès ses premiers albums, est tombé là-dedans, et puis plein d'autres. Jack White, les White Stripes, tout ça. Enfin, tout ce mouvement-là, c'est des gens, en fait, qui ont rejeté un peu le côté surfait du studio, beau avec des canapés rouges et puis des glaces à la pause. Ils se sont dit, en fait, ce qui est important, c'est de faire de la musique et d'avoir un propos musical construit. Et il se trouve que pour avoir vraiment un propos artistique intéressant, il faut du temps. Ou alors sinon, il faut beaucoup d'argent. Et comme nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, du coup, on s'est intéressé à ce moment et on est tombé dedans et ça nous a convenu parfaitement parce qu'en fait, ça convenait un peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à se forcer parce que Jean-Marc et moi, on s'est rencontrés en studio. Moi, j'ai rencontré Jean-Marc parce que j'avais besoin de quelqu'un pour
Lors
enregistrer.
de sessions différentes.
En fait, lui avait un studio à l'époque. Il avait un studio et donc je venais enregistrer mon deuxième album solo chez lui. Il avait la réputation d'être un très bon réalisateur. Le réalisateur en musique, c'est celui qui va écouter la composition de l'artiste et qui va dire je vois bien tel piano à tel moment, tel type de guitare ou tel type
Chef
d'arrangement.
d'orchestre un peu, quoi.
Et un peu, voilà, c'est ça. C'est un peu l'équivalent du chef d'orchestre. Et donc, du coup, il avait cette réputation-là. Donc, j'ai été enregistrer cet album chez lui. Et en fait, l'entente a été telle que, du coup, on est resté ensemble. Mais en gros, pour revenir au lo-fi, en fait, on est resté dans notre studio. C'est-à-dire que les outils qu'on avait nous convenaient. Et en fait, les défauts des outils, on sentait bien que c'était pas de la grosse production au départ. Mais en
Donner
fait,
de
ça nous a.
l'authenticité, quoi.
C'est ça, ouais, c'était authentique et surtout, en fait, c'était finalement une marque de fabrique. Enfin, c'est devenu après une marque de fabrique.
Il y a une grosse différence avec le son garage dont on connaît en parler au début des années 90, etc.
Je pense qu'en fait, il y a des corrélations. C'est-à-dire qu'en fait, les deux se font dans un garage, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute les premiers Black Keys, donc c'est du rock lo-fi, garage, il y a plein d'étiquettes qu'on peut leur donner, mais en tout cas, ils sont dans cette mouvance lo-fi. Et ben là, ils sonnent clairement garage, parce qu'ils sont dans le garage du batteur. Donc, en fait, ouais, je pense qu'il y a ces mouvements-là, en tout cas, ils ont des tenants et des aboutissants communs, c'est sûr.
Et pour ce qui est du nom de votre groupe, donc les No Money Kids, est-ce qu'il y a un lien avec justement avec ce mode d'enregistrement en lo-fi ou lo-fi?
Oui, puisqu'en fait, on n'avait pas d'argent à l'époque. On n'en a pas encore beaucoup, hein, parce qu'on est quand même que des petits intermittents du spectacle.
À mon avis, vous allez grandir, hein?
Ouais, on a bien grandi, mais après, il y a le Star System et il y a les autres. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, au départ, c'est sûr qu'on n'avait pas d'argent. Moi, je galérais avec plein de petits boulots. Enfin, on n'est pas né dans des familles avec des pères, des filles. Enfin, on n'est pas des fils d'eux, quoi. On est des fils de notre famille. Mais ça nous convient très bien. Hein. Mais du coup, effectivement, au début, personne nous a ouvert la porte, quoi. Il y avait une chanson qui traînait, qui s'appelait No Money Kids. Et qui parlait en fait de l'exode de ma grand-mère qui a fui le franquisme en Espagne du bout de l'Andalousie jusqu'à la région parisienne quasiment à pied.
Ouais.
Et moi, enfin, toute ma jeunesse a été bercée par ces récits, par ce récit-là. Et ce qui m'avait frappé, enfin, ce qui m'a tout, ce qui me Enfin, ce qui me retourne à chaque fois, c'est qu'en fait, elle a perdu son père qui est mort de faim devant elle sur ce trajet-là. Et je trouve ça dingue que, enfin, cette histoire, cet ADN-là, en fait, j'ai l'impression d'écrire des chansons tout le temps en pensant à ça, quoi. Enfin, avec ce bagage-là. Donc, du coup, bah voilà, c'est un hommage à ma grand-mère. Et puis, de manière plus générale, c'est plus quelque chose. On voulait un nom global. On voulait pas un nom qui soit affilié à notre propre personne.
Et si on revient un peu à la technique, aujourd'hui, on peut discerner deux grands types de modes d'écoute. Il y a le streaming et puis en gros le vinyle. C'est bien qu'on revienne au vinyle d'ailleurs. Est-ce que c'est facile de produire ce type de son comme les vôtres pour ces deux types d'écoute qui sont quand même bien différents?
Alors là, là, il y a vraiment une question technique. Parce qu'en fait, alors Jean-Marc, alors JM, qui est la deuxième partie du duo de Domenekid, qui fait le mixage, le mastering, lui pourrait t'en parler. D'ailleurs, il pourrait plus t'en parler. Mais en fait, même le mastering, donc qui est la dernière couche qu'on fait lorsqu'on produit un album, enfin on enregistre un album, et ben c'est pas le même pour le vinyle, parce que l'objet n'est pas le même. Et les sillons que vous avez, alors. Peut-être que je vais pas être assez, enfin, je suis pas assez technique, enfin, je suis pas assez précis en tout cas pour
Non,
dire
non, mais ça se.
exactement la fréquence, mais en gros, plus le sillon est large, plus la qualité est bonne.
OK.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des albums vinyles, avec généralement deux vinyles à
Ouais,
l'intérieur du
j'ai
même vinyle,
remarqué, ouais, tout
parce
à fait.
qu'on veut préserver une qualité d'écoute.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, c'était tout sur un. Et puis bon, après, on a augmenté aussi les nombres de titres. Donc, du coup, forcément, il fallait réduire un peu Donc, bref. Mais en gros, pour revenir à ta question, c'est nous, quand on va en studio, on ne pense pas à la finalité de streaming ou vinyle. Par contre, quand on travaille techniquement la fin de l'album, là, ça change des choses, ouais, effectivement. Parce qu'on n'écoute pas, on n'a pas la même écoute. On sait que les gens, généralement, quand on est sur du streaming, on va être sur des enceintes Bluetooth ou enfin,
Des
c'est-à-dire qu'on
casques.
va pas avoir, voilà, on va pas avoir la même écoute que quelqu'un qui met son vinyle où là, du coup, il va y avoir ampli, toute une chaîne qui fait que bah finalement le rendu va pas être le même. Mais c'est intéressant parce que du coup, pour des questions techniques, ça nous fait travailler différemment. En studio, on se pose des fois, on fait des écoutes que sur des petites enceintes, par exemple. Après, on va faire des écoutes sur une chaîne avec ampli, excuse-moi, platine et puis enceinte. Donc, en fait, en gros, ça rajoute encore, je trouve, de la profondeur, au travail de mixage, de mastering.
Oui, parce qu'en streaming, j'ai découvert ça, c'est que forcément, c'est logique. Plus tu as une version récente du Bluetooth sur ton téléphone, par exemple, qui donnera un gros débit, et avec une version accueillante du Bluetooth aussi élevée, plus le débit sera élevé, plus la résolution sera meilleure.
Bah oui,
C'est
ouais.
logique, mais bon, on n'y pense pas
C'est
forcément.
sûr que on arrive aujourd'hui à quand même des choses un peu intéressantes. Hein. Là, j'ai écouté, alors sans faire de pub, mais la dernière version d'un smartphone, là, je dirais pas la marque, mais et j'ai écouté, enfin ce que donnait notre album dessus, c'est incroyable. Hein. On arrive quand même à des choses assez
Bah,
intéressantes.
oui. Alors après, hier, j'ai essayé de faire un test avec des écouteurs, un casque d'une marque non plus que je ne citerai pas, sur le son spatial, dit spatial
Ouais.
d'Apple Music. Ça n'a pas été
Ça n'a pas
transcendant,
été
quoi. Non,
le.
non. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'il faut le casque à 500 euros, je ne sais pas.
Je ne sais pas ça, encore
Parce
une
qu'il
fois.
propose qu'un petit catalogue, visiblement, de son spatial. Donc,
Ouais, bah, tout le monde
à
ne peut pas
voir.
lutter pour ça. Et puis
Ouais.
là, on en parlait justement avec des amis qui commencent à s'y mettre. Ça demande beaucoup de moyens, même pour mixer. Donc, du coup, même. Pour le même en amont, avant que toi que nous l'écoutions, eh ben il faut tout le monde ne peut pas le faire.
C'est clair. Et dans votre ambiance, on est souvent très proche de la musique de film dans vos productions. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment affirmée de guider peut-être l'imaginaire de l'auditeur vers cet environnement, la musique de film?
Alors c'est encore une fois c'est pas une volonté consciente. C'est-à-dire qu'en fait moi quand je compose une chanson généralement j'ai une image assez claire du personnage que j'ai envie de enfin, auquel j'ai envie de m'affilier à un moment et de l'ambiance de plein de choses et je trouve que ce qui est intéressant dans l'écriture blues si on peut appeler ça comme ça c'est qu'en fait les textes généralement sont il y a très peu de mots mais pour des images qui sont frappantes et je trouve que ça amène justement l'écoute vers quelque chose de cinématographique. Et après, pour parler de la réalisation, c'est vrai qu'on est des gros fans. En fait, moi, il y a plein de fois, enfin, on est assez cinéphiles, et c'est vrai que plein de films m'ont inspiré des chansons. Et quand on travaille en studio avec JM, on parle souvent en images. Donc, enfin, des choses, ça peut être. J'en ai pas qui me viennent là, mais en gros, à chaque fois, quand on est sur les. On se concentre sur l'émotion et sur les images que ça nous renvoie. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des partitions, on n'est pas en train de parler. On parle d'harmonie musicale et de technique, mais une fois qu'on a passé ça, on n'est plus sur le ressenti. Donc, forcément, le ressenti amène quelque chose de très visuel, finalement. En tout
Ben,
cas,
je
pour
viens.
nous. Non, non, mais vas-y.
Non, j'en venais justement à vos clips vidéo qui sont super bien réalisés. Qui est aux commandes? C'est vous aussi?
Alors, non, dès le départ, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire. Enfin, nous, on s'occupait de la musique, on n'a pas la prétention à faire.
La vidéo.
On a nos idées, on a notre sensibilité, mais on aime vraiment les gens qui ont la même chose, mais dans d'autres arts. Et donc, du coup, on est assez sensible à ça. Et dès le départ, en fait, on a fait beaucoup de veille avec tous les membres du groupe. Où on met de côté voilà, des petits courts-métrages, des petits, enfin, des fois des pubs, des fois c'est des longs-métrages qui sont passés un peu à la trappe. Enfin, voilà, on aime bien rester un peu attentif à tout
Donc
ça.
ils sont puissants hein, quand même. C'est
Bah,
ouais.
merci, du coup,
Ah
c'est rassurant, mais nous, on les a trouvés puissants, en tout
non.
cas. Alors qu'en fait, ce qui est agréable quand tu travailles avec des gens qui ont leurs pattes et qui. Et en fait, finalement, comme on les connaissait pour la plupart enfin, depuis quelque temps déjà, enfin, on suivait un peu leurs travaux, et on savait un peu à quoi s'attendre. Et par exemple, le dernier pour Brothers, ça a été assez. C'est-à-dire qu'on voulait quelque chose avec une ambiance un peu différente de l'album. C'est-à-dire que Brother se détache un peu parce qu'il a ce côté un peu, en tout cas dans l'image, second degré que Roger a mis dessus. Et en fait, je trouve que ça colle parfaitement à cette chanson parce que même dans l'écriture de la chanson, moi, c'était paradoxal parce qu'à la fois, je pensais au bruit que je pouvais avoir familial avec mon frère, d'où le nom, et à la fois, je pensais aussi à la lutte pour les droits civiques. Donc, en fait, il y a eu deux choses qui sont mêlées comme ça, et je trouve que du coup, le second degré, c'était pile poil.
Ok. Au niveau de votre discographie, on trouve pas moins de 12 singles. Alors, est-ce que vous construisez un album à partir d'un ou de deux singles, ou la genèse se fait d'un tout autre moyen ou process?
Eh bien, quand on est en studio, on ne pense pas du tout au single.
D'accord.
Parce qu'on a déjà essayé, tu vois, sur l'album précédent, en fait, on se disait que c'était le troisième album et que c'était quand même un tournant. Parce que le deuxième album, enfin bon, quand tu fais ton premier album, personne ne t'attend, personne ne sait ce que tu fais. Donc,
Ça te définit un peu, quoi.
voilà, ça définit un peu, mais tu as le droit à l'erreur. Le deuxième, on s'attend à quelque chose. Et d'ailleurs, même moi, souvent le deuxième, je suis là, oh non, j'aime pas, je préfère avant. Et après, le troisième, il faut un truc nouveau parce que sinon, tu perds les gens.
Faut
Et
surprendre.
au troisième album, on s'était donc sur Trouble, on s'était posé la question et on s'était dit, bah, bon, voilà, on va essayer de travailler, pas des singles, mais travailler des titres un peu plus, comme on voyait les grands faire. Et en fait, nous, c'est vraiment pas notre truc. Parce que, en fait, quand on arrive en studio, d'intellectualiser trop la suite et surtout se projeter sur ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, en fait, nous, ça nous perd parce qu'on a une pression, du coup, qui est insoutenable, même si on n'est pas les Rolling Stones. Hein, mais
Non, mais ouais.
on se dit, ouais, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer? Donc, du coup, on pense vraiment pas à ça quand on rentre en studio. Et là, pour cet album, on n'a vraiment pas pensé à ça. On a produit, 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 produit. D'ailleurs, il y a la moitié. Là, il y a 13 ou 13, 12 ou 13 titres, je crois. Il y en a, je sais pas, on en a dû en produire 25.
Ouais.
Donc, en fait, on a fait. Et à la fin, quand on a eu fini et qu'on s'est dit, tiens, là, c'est bon, la période Factory, elle est passée. Parce qu'on sentait que. Parce qu'on. Ce qui est marrant, c'est qu'on a passé quand même tous des périodes un peu d'isolement avec les confinements, etc. Puis
C'est clair.
nous, on n'a pas pu bosser parce qu'en fait, on n'était pas, on n'a pas tourné, quoi. Donc, en fait, on est resté chez nous et ça, c'est. Nous, ça faisait 10 ans que ça ne nous était pas arrivé. Et,
Ouais.
mais du coup, on a pu aller en studio et enregistrer, enregistrer, enregistrer. Et du coup, on a continué à enregistrer. Même là encore, on continue d'enregistrer. Et il y a un moment vraiment où on a senti que l'épisode. Ce qu'on voulait dire sur l'usine, parce qu'il y a quand même un fil conducteur sur cet album-là, parce que en gros, si tu veux, on est allé. J'ai mon cousin qui est soudeur, et donc on est allé sampler une journée de travail, enfin voilà, une de ces journées de travail. Et dans chaque titre, en fait, on a mis un peu de son. Des fois, c'est son coup de marteau, des fois, c'est.
Ah
On a pris des petits sons comme ça qu'on a des fois pitchés, donc ça veut dire qu'on les a un peu trifouillés pour avoir un autre son qui n'est pas naturel, mais en tout cas, il y a toujours un petit peu de sa journée de travail dans nos titres.
ouais, ce côté un peu
Ouais,
industriel, alors, c'est ça qu'on ouais.
voilà. Et en fait, il y a un moment où on s'est dit, ça y est, on a dit ce qu'on avait à dire, et du coup, on est passé à autre chose. Donc, tu vois, là, quand on est arrivé à la fin, on sait pas, on n'avait pas de single. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on enregistre, on se dit que ça, c'est le single, parce que pour nous, c'est notre chanson, la chanson du moment, quoi, tu vois. Donc, mais après, c'est vrai qu'on se pose des questions une fois que c'est fait. Par contre, on travaille avec. Donc, on a notre manager, là, David, avec qui on bosse quotidiennement ensemble. Là, on se pose et on se dit, bon, voilà, quel tu penses? Après, on va voir le label, après, on va voir les éditeurs. Chacun nous donne un peu sa vision. Puis on fait des tables rondes comme ça pour voir un peu et on sort.
Et là, je dirais que c'est le choc pour moi, parce que c'est vrai que, pour être honnête, je ne vous connaissais pas jusque-là. Et en fait, sur leur service de streaming que je ne citerai pas, arrive dans le radar des sorties Factory Blues. Et là, dès les premières secondes, je me dis, pop, 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 qu'est-ce que c'est que ce son de fou? Qu'est-ce que c'est que cet ovni, quoi? Et là, donc, j'ai tout de suite shifté sur l'album et j'ai avalé l'album d'un trait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un autre grand tournant avec cet album lié à Factory Blues?
Je pense qu'en fait, ça a modifié notre manière de profondément notre manière de produire de la musique et de jouer de la musique finalement parce que en fait jusqu'à présent on se posait pas trop de questions on tournait donc on était un peu dans le rush de toujours parce qu'on a moi j'écris tout le temps et Jean-Marc est toujours en train de bidouiller 46 000 synthés donc du coup on est tout le temps en train de composer et c'est vrai que là pour Factory Blues on a eu le temps de se poser. Et je pense que quand même, il y a eu une volonté sur cet album de Claire, pas d'avoir un propos artistique plus affirmé.
Affirmé.
Plus affirmé. Et même dans les sons, en fait, on a
Ah
un
oui.
peu twitché.
Pop, pop, pop.
Et je pense que ça a profondément marqué la suite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Pour nous, artistiquement, après, je ne sais pas pour
Ah
les gens, mais.
ouais, mais si, c'est ouais, j'ai écouté la succession et là, ouais, il y a un vrai tournant, c'est d'une profondeur, c'est puissant, c'est travaillé, enfin c'est énorme. Et justement, alors, est-ce qu'après ça, vous pensez revenir à un son d'avant ou parce que peut se poser la question?
Non, je pense qu'en
Non.
fait, on va continuer d'évoluer. Ce qui est sûr, c'est que de la composition, l'enregistrement, et enfin la réalisation, l'enregistrement de Factory Blue, enfin de Factory, ça a été lourd. Parce que ça nous a mis dans une ambiance qui était, en fait, qui était pas pesante, mais c'est-à-dire qu'en fait, même quand on était quand on faisait du rock électro et qu'on était à fond, on sentait ce truc de, tu vois, comme il y avait un propos et qu'en plus on vivait un moment de confinement un peu dur.
Lourd.
Tu vois, quand on a fini cet album-là, on s'est dit, bon, bah là, on va faire de la funk. Mais ben, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Hein.
Non,
Mais
mais ouais.
c'est-à-dire que là, en fait, je pense qu'on a une, on a
Il y avait
vécu
un
une
moment,
introspection.
quoi.
Ouais, c'est ça, une introspection tellement forte que du coup, ce sera un point de bascule. Après, je sais pas ce qui va arriver après. Je peux pas te le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, moi, ça m'a, tu vois, par exemple, si on peut parler 2 secondes de guitare, sur cet album-là, j'ai utilisé, donc jusqu'à présent, j'utilise en toile de fond qu'une seule guitare. C'est ma Silvertone 1469 que j'utilise tout le temps. 1429, excuse-moi, que j'ai depuis le début. Et celle-là, c'est vraiment le son de mon équipe. Après, je rajoute plein d'autres guitares, mais si j'ai pas ça, je me sens
La
pas bien,
base,
quoi.
quoi.
Et là, pour cet album-là, j'ai fait l'acquisition d'une Nationale de 56 et qui est un peu étonnante parce que elle est complètement fausse. Enfin, en fait, elle est ingérable.
Un
Mais du
réglable.
coup, ça te fait un son. Si t'écoutes par exemple Crossroad, le premier titre qu'on a sorti, et ben c'est ce son-là. C'est le son typique de cette guitare-là. Et du coup, moi, ça m'a rappelé qu'en fait, ce son un peu poilu là, un truc un peu vénère comme ça, un peu hard blues. Et bah ça me botte, quoi. Donc du coup, je pense qu'on va avoir des passages bien hard blues dans les prochains.
L'effet a été réussi parce que moi, ça m'a je me suis pris ça comme une claque au visage. Hein. Ça a été. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Au début, je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas un nouveau titre de Plante, tu vois? J'ai plein de choses comme ça, aussi d'archives ou d'archives en suivant. Il y a beaucoup d'influence chez vous. Et parce qu'on navigue aussi entre la bande originale, le film. Le road trip pur et dur, c'est planant, profond. Et donc, ouais, pour moi, franchement, ça mériterait grave un album de platine. Pour ce qui est de la suite, notamment, vous allez être en tournée, je crois.
Oui,
Après-demain ou demain, je crois, il y a une date. Et puis en février, c'est ça?
c'est ça, ouais. On repart donc demain, on part à Tours, à côté d'Avignon, au Sonographe. Et après, on a toute une série de dates dans les Alpes. Alors, ça, tout est disponible sur notre site, mais enfin, voilà, c'est les grandes lignes. Et surtout, on a notre sortie d'album qui est prévue au Trianon à Paris, le 3 mars. Et après cette date-là, on part en tournée en Allemagne pour une semaine et demie, je crois. Après, on revient et là, il y a des dates un peu partout en France.
Ah ouais, donc vous avez un tour complet là.
Bah
Ouais,
ça, ça
ça
se
se
ça,
bien.
ça se book. Après, c'est vrai que du coup, on retrouve quand même. Enfin, je pense que tout le monde le voit un peu dans son secteur d'activité. On est tous un peu quand même. On sait pas
Entre
trop
deux eaux,
voilà, à quelle sauce on va être mangé. Donc encore plus quand on est dans le spectacle, on sent que ça tient pas à grand chose, quoi. Mais bon, on y croit.
Oui, bah, il faut. Les discothèques souffrent en ce moment. Hein.
Ah ouais,
On pense
là
à elles.
c'est.
Et si tu avais un conseil au niveau de votre discographie, est-ce que on doit l'écouter premier album au dernier ou alors on peut comme ça zapper d'un autre, de l'un à l'autre pour toi?
Bah,
Il n'y a pas de règle?
il n'y a pas de règle. Après, moi, là, en ce moment, j'ai vraiment la tête dans Factory. Donc, je conseillerais aux gens
Moi aussi, je te cache pas.
d'aller directement à Factory. Parce que, en fait, c'est ce qui va être le plus. Parce que, malgré tout, en fait, quand on sort un album, on est un peu c'est un peu la photo du moment. Donc, c'est un moment qui est daté. Donc, sans dire que les albums sont datés, c'est juste que, en fait, il y a quand même, voilà, c'est la Factory, on sent que bah on a eu des périodes un peu, on a eu
Compliqué,
des périodes sociales un peu compliquées, donc en partant de, je sais pas, la loi travail jusqu'au gilet jaune, jusqu'à plein d'autres choses, ça nous a profondément marqué, nous. Et donc du coup, on le ressent dans cet album, mais donc je pense qu'il y a des liens que les gens feront avec leur propre vie à eux, mais parce que du coup ça vient de maintenant, quoi. Donc je pense que le mieux c'est de commencer par Factory et après
Après, sur votre catalogue, quoi.
voilà, voir un peu ce qui se passe ailleurs.
Dernière question pour cette fois, en espérant qu'il y en ait d'autres. À la manière de Last Night, DJ Save My Life, quel artiste singulier ou pluriel, tu aimerais remercier d'avoir existé un jour pour te retrouver là, toi, à jouer sur scène?
Moi, j'ai quand même... j'ai plusieurs réponses. Parce que, en fait, au début, quand on a commencé à travailler avec JM, moi, je suis épileptique. Et ça ne m'arrive pas. Mais là, il se trouve que, du coup, j'avais plus de médicaments. Et surtout, j'avais un dernier concert où il y a une erreur médicale dans le sens où mon médecin de l'époque m'avait donné plein de choses pour parce que j'avais le nez pris, etc. Et je devais chanter. Donc, du coup, j'avais plein de shit, plein de trucs, plein de machins. Sauf que c'était contre-indiqué pour les épileptiques. Du coup, j'ai été au concert et après, blackout. Et du coup, je me suis retrouvé avec l'épaule cassée. Enfin, j'ai pas joué de guitare et fait de musique pendant un an. Parce
que t'as chuté ou quoi, non
c'est... Non, c'est parce que quand tu fais une crise d'épilepsie, tu te tétanises.
Ah oui,
tu tétanises tellement que moi, mon épaule s'est déboîtée et après, c'est cassé.
Ah oui.
Donc, c'était assez dur. Et en fait, dans cette période-là, je me suis dit, déprime pas. J'ai lu plein de bouquins, plein de super bouquins, plein de trucs. J'ai pris le temps de regarder les films que je voulais regarder. Et je n'ai pas essayé de pas penser à la musique, même si j'en écoutais beaucoup. Et dans cette galère-là, j'ai fait la rencontre. C'est-à-dire que quand la première fois que j'ai entendu Stick Freakness des Black Keys, vraiment, je me suis dit qu'il était en train de me parler, le gars. je sais pas, il y avait un truc, je me suis dit, waouh, putain, on a l'impression d'avoir un riff de Rage Against the Machine avec, je sais pas, les Rolling Stones. Enfin,
ouais, c'est avec, super riche.
Je sais pas, il y avait un truc à la Creedence. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui m'a. Enfin, moi, le bagage qu'il y avait, c'était exactement ça, quoi. Et donc, du coup, ça a changé ma vie. Parce qu'après, j'ai commencé à être vraiment dans... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la sensation, du ressenti, etc. Je trouve que les Black Keys, ils ont ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils te disent que et les White Stripes aussi, et les Kills aussi, d'ailleurs. Mais c'est qu'ils ont... C'est que tu peux faire beaucoup avec peu de notes, et finalement, en fait, ça te rappelle un peu ce que c'est que l'importance de la chanson et du sentiment dans la chanson. Et que là, finalement, tu vois, moi, toute ma vie, j'ai bossé des plans de blues, tout ça, machin. J'étais un grand fan d'Hendrix, etc. Mais en fait, tu te perds quand tu vas trop vite. Ouais. Tu vois, quand tu vas trop vite, quand c'était trop technique, tu te paumes. Et ça, les Black Keys, t'écoutes un album de Black Keys et là, ça y est,
ça te calme. T'as l'essentiel, quoi. Ouais.
T'as l'essentiel, voilà.
Le message. Donc,
il y a vraiment un artiste, ou du coup deux artistes avec Patrick Carney et Dan Auerbach. Voilà, c'est ces deux artistes-là, eux, ils m'ont vraiment sauvé la vie.
Parce que Jack White a fait des choses aussi vraiment puissantes. Hein. C'est waouh. Son son est quand même très très particulier aussi. Hein.
Ah non, mais c'est vrai qu'il a un truc. Jack White, en fait, le truc de Jack White, c'est qu'il est. Tu sens vraiment qu'il bouillonne de l'intérieur. Et puis en plus, c'est un tel. C'est un tel personnage, quoi. Après, il est. Moi, j'avoue être un grand fan des White Stripes. Après, ou Dead Weather, mais c'est vrai qu'après ces albums solo, j'adore. Je les écoute tout le temps, mais j'écoute quotidiennement les White Stripes. Les White Stripes, Black Keys et les Keys.
Ah oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont recréé une génération de musique quelque part un peu.
Ah ouais, clairement, ils ont eu dans un impact qui a été. Sans eux, je pense qu'il n'y avait pas de.
On n'a pas eu le même sentiment qu'avec Oasis, ou avec Lenny Kravitz, on disait « Ah, c'est du Hendrix, ah, c'est du... des Beatles, voilà. » Non, là, on avait vraiment quelque chose de tout neuf, intégralement.
Oasis, en fait, moi, j'adore, hein, je suis un grand fan.
Ah oui, moi aussi.
J'ai trouvé ça génial.
Les deux frères aussi, hein, ce qu'ils font.
Et Kravitz aussi, mais c'est vrai que du coup, tu as ce sentiment de redite. Après, c'est super agréable, il y a des super chansons, il y a des trucs en plus, hein, mais c'est vrai qu'avec les White Stripes ou les Black Keys, des débuts, c'est des sons qui te dérangent. Au début, tu n'es pas habitué, quoi. Déjà, le format du haut.
Le clip aussi qui va.
Bref, mais c'est vrai que du coup, bon, Moi, c'est des artistes vraiment, ils m'accompagnent, ils font partie de ma famille, quoi. Enfin, ben, je crois que ma fille, elle dira, elle appellera tonton Dan, alors qu'en fait, il n'est pas là.
Ok. Eh ben écoute, merci pour ta sincérité et puis ta passion, ainsi que toutes ces petites anecdotes sur tes guitares et tes
Ah,
enregistrements.
bah,
C'est
merci à
super
toi.
passionnant. Moi, encore une fois, je ne peux que conseiller d'aller sur toutes les plateformes et puis sur tous les supports possibles, écouter vos albums donc, du groupe No Money Kids. Parce que franchement, voilà, je me suis pris une claque et je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est
Ah bah, merci à toi en tout cas.
bon, pour le coup, je remercie donc le service de streaming de vous avoir mis dans mon radar des sorties. Parce que mais c'était vraiment là, Factory Blues. J'en ai discuté par SMS avec une amie. Elle m'a dit, ouh, j'aime beaucoup la guitare là. Ouh, j'aime beaucoup tout ça, là, cette ambiance, j'aime beaucoup. Oui. Donc, tu vois, je pense que ça va bien, bien monter. Et je vous souhaite le meilleur en tous les cas pour les mois à venir. Et puis, évidemment, qu'on sorte un peu de tout ce carcan sanitaire qui nous oppresse parfois. Félix, merci encore.
Merci à toi.
Je mettrai les liens avec vos tournées, etc. Bah, take care. Prenez soin de vous dans le son. Je vois que tu as du soleil là. Je sais pas,
Là, je suis en plein soleil.
tu es à Paris là ou
Ouais, je suis en région
ouais.
parisienne, à Argenteuil.
Ouais, c'est cool. Alors, il va falloir sortir alors du coup.
Ouais.
En profiter généralement. Quand on dit à Paris, du soleil, il faut profiter. D'accord, merci à toi pour ta passion et puis tes impressions. Et puis encore une fois, on va vous suivre parce que y a quelque chose de super intéressant et de profond chez vous. Merci.
Bah, merci à toi, merci à vous.
À bientôt. Au
Salut.
revoir, Félix. Ciao.